Go, go, la revue presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Bienvenue à toutes et tous dans la revue de presse JV, quel bonheur de vous retrouver comme chaque semaine. J'espère que le week-end s'est bien passé, comme d'habitude. Encore une fois, un sommaire pharaonique, on va parler de Death Stranding, on va parler déjà de toutes les news qu'il ne fallait pas louper, on va parler de science et de jeux vidéo, on va parler de la BlizzCon aussi 2019, bref, beaucoup de choses, et aussi une nouveauté, j'en parlais plus précisément plus tard, dans le moment un petit peu où je parle des tipeurs, mais effectivement, en plus du Tipeee, pour soutenir l'émission, un Patreon a également été ouvert, et ça s'est fait vraiment en concertation depuis de nombreux mois avec les tipeurs, avec leurs conseils, etc. Effectivement, certains auditeurs me disaient que sur Patreon, c'était plus simple pour eux, donc un Patreon a été également ouvert pour la revue de presse JV, patreon.com/la revue de presse JV, tout collé, si vous voulez soutenir l'émission, mais on en reparle tout à l'heure, voilà, il y a un petit peu plus de possibilités, si vous voulez, eh ben m'aider, tout simplement, et sans plus tarder, attaquons cette édition avec l'incontournable brochette de news que le monde nous envie. Death Stranding sortira sur PC au début de l'été 2020, donc on parlera du jeu tout à l'heure sur son accueil critique. Mais oui, le jeu va sortir sur PC, alors beaucoup s'en sont étonnés. Ce qui est étonnant, je pense, c'est de l'annoncer maintenant, à quelques jours de la sortie sur PlayStation 4. Mais on savait que le jeu n'allait pas être que sur la console de Sony, ce que nous rappelle Gameblog. Le site nous dit, en mars dernier, Sony diffusait une vidéo dans laquelle il mettait en avant les exclus PS4. L'absence de Death Stranding de cette vidéo nous avait mis la puce à l'oreille. À quelques jours donc de sa sortie du jeu sur PS4, la raison de cette absence vient d'être clarifiée. Et comme le rappelle de vieilles déclarations, nous rappelle à juste titre Gameblog, cette nouvelle n'est pas si surprenante que ça. A noter que lorsque le partenariat entre Sony et Kojima Productions a été annoncé en décembre 2015, et oui ça remonte, Sony avait déclaré que le premier titre de Kojima Productions serait une exclusivité console sur PlayStation 4. Console, donc oui, le jeu sortira donc sur PC début été 2020, on n'en sait pas plus pour le moment, mais c'est vraiment, je pense, plus cette histoire de timing qui a étonné. Shigeru Miyamoto reçoit la plus haute distinction culturelle du Japon, c'est culturegeek.fr qui nous raconte ça. Et oui, il était temps, le génial créateur de Mario, Zelda, Donkey Kong, etc. Game designer absolument génialissime, dont l'influence se fait sentir encore aujourd'hui. Et je vous assure, quand vous vous intéressez au game design, voir tout ce que Miyamoto a posé, a conceptualisé, c'est assez impressionnant, c'est vertigineux, j'ai envie de vous dire. Et donc il aura fallu attendre 2019, nous dit culturegeek.fr, pour que Shigeru Miyamoto reçoive la distinction suprême de personne de mérite culturel. Un titre, nous dit-on, équivalent à l'ordre des arts et des lettres en France. Shigeru Miyamoto est le premier créateur de jeux vidéo à recevoir cette distinction au Japon. On nous rappelle effectivement que Shigeru Miyamoto avait déjà été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres en France en 2006, souvenez-vous, aux côtés de Michel Ancel et Frédéric Reynaud. Le site du CNC nous annonce, il n'est pas le seul, mais j'ai décidé d'aller sur le CNC, Julie Chalmette reçoit les insignes de chevalier des arts et des lettres, toujours pour rester dans les distinctions. Et oui, la présidente du CEL, donc du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, et directrice générale de Bethesda France, a été décorée mardi 29 octobre dernier par Franck Riester, le ministre de la Culture. Le ministre a déclaré, au travers de Julie, c'est la reconnaissance d'une vision exigeante de cette industrie créative et la valorisation de tous les talents qui donnent vie au jeu. Julie Chalmette a également cofondé Women in Games, et ça c'est important de le rappeler, une association, je cite, professionnelle œuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France, qui était présente également à la Paris Games Week. Donc félicitations à Julie Chalmette. Hop, on bifurque du côté de chez GameCult, et je pense que certains fans, pour ne pas dire tous les fans, du CRPG, du RPG micro, seront ravis d'apprendre que Disco Elysium sortira sur PS4 et Xbox One en 2020. Révélation critique hein, de l'année au rayon RPG, Disco Elysium, nous dit GameCult, fait saliver deux catégories de genres depuis sa sortie, ceux qui ne jouent pas sur PC et ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Aujourd'hui, donc, le studio derrière le jeu a une bonne nouvelle pour l'une et l'autre de ces malheureuses communautés. Et oui, comme l'a confirmé le concepteur en chef Robert Kurwitz, il y a une adaptation qui est en cours, une adaptation sur PS4 et Xbox One, une localisation européenne avec, justement, donc, je cite, plusieurs langues européennes. Donc le français en fera très certainement partie. C'est vrai que Disco Elysium, les critiques dithyrambiques, les débats aussi qui ont été autour du jeu m'ont fortement intrigué. Et même si mon niveau d'anglais est quand même tout à fait correct, là c'est un jeu énormément textuel et les kilomètres de langage assez soutenus visiblement, même quand on maîtrise bien l'anglais, ça peut faire un peu peur effectivement. Et donc le fait de voir arriver une traduction, ça va amener tout un autre pan du public intéressé par ce type de jeu vers Disco Elysium. Donc on va surveiller ça. C'est en 2020, comptez sur moi de toute façon pour vous tenir au courant dès qu'on en aura un petit peu plus à se mettre sous la quenotte. Ancestors, The Humankind Odyssey dévoile sa date de sortie sur PlayStation 4 et Xbox One. Et oui, c'est Gamergen qui nous apporte sur un plateau d'argent cette news. Oui, le jeu de Patrice Désilets. Est-il besoin de rappeler qui est Patrice Désilets, le papa d'Assassin's Creed, celui qui avait rénové Prince of Persia, qui a une histoire un peu houleuse avec Ubisoft. Bref, The Humankind Odyssey, jeu qui lui tenait vraiment à cœur, hein, arrivera comme prévu donc en décembre 2019 sur PS4 et Xbox One. Il est disponible depuis août dernier sur PC. Gamergen nous rappelle à juste titre hein, que le jeu était un pari risqué, notamment à cause de son concept original et inédit. Il nous propose, rappelez-vous, d'incarner des primates qui voient leurs compétences améliorées au fil de leur exploration, répliquant le principe même de l'évolution humaine. L'accueil a été mitigé, que ce soit par la presse ou par le public, mais certains ont tout de même bien apprécié l'expérience, et là aussi il y a eu beaucoup de débats hein, sur The Humankind Odyssey. La date donc de la sortie console, c'est le 6 décembre prochain, 39,99€, le prix est quand même assez chouette je trouve, donc sur PS4 et Xbox One. Je vous ai trouvé une news très intéressante sur gamesindustry.biz, hein, que j'ai traduite moi-même comme un grand, c'est la collaboration du studio Ninja Theory, vous savez, derrière récemment Hellblade, hein, qui traitait déjà de la maladie mentale. Alors pourquoi je vous dis déjà ? Puisque là, le studio, en collaboration avec Paul Fletcher, un psychiatre hein, et professeur en neurosciences de la santé à l'université de Cambridge, donc Monsieur Fletcher et Ninja Theory vont créer une variété d'expériences de jeu pour aider les gens à identifier et contrôler les émotions négatives comme la peur et l'anxiété. Oui, c'est dans le cadre du projet Insight. Donc le studio poursuit son partenariat avec Paul Fletcher qui, rappelons-le, avait déjà collaboré sur donc Hellblade, hein, Senua's Sacrifice. Faut vraiment que je le fasse, hein. Depuis des années que ce jeu me fait de l'œil, bref. Donc Ninja Theory prévoit de créer une variété donc d'expériences, comme je vous le disais, pour contrôler les émotions négatives. Don Matthews de Ninja Theory nous dit, je cite, « Cette approche sera facilement applicable, flexible selon les besoins de chacun, agréable et passionnante. Notre but est de créer et d'inspirer un mouvement, faire en sorte que le traitement de la santé mentale devienne, entre guillemets, mainstream. » C'est une approche vraiment passionnante. Moi, vraiment, je vais suivre ça de très près. Et voilà, dès que ça prend un peu plus forme, qu'il y a un peu plus de concret, je vous en reparle, bien sûr, sans faute. La PlayStation 4 devient la seconde console de salon la plus vendue de l'histoire avec 102,8 millions d'unités écoulées. Oui, Sony Corporation a dévoilé ses résultats économiques, nous dit GameCult, pour le trimestre clos le 30 septembre dernier. L'occasion pour la PS4 de passer devant la PlayStation première du nom et la Wii pour devenir donc la seconde console de salon la plus vendue de l'histoire après la PlayStation 2 qui, elle, caracole à plus de 155 millions d'unités. Donc que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de bénéfices opérationnels, le segment jeux vidéo de Sony ne peut plus cacher les effets de l'âge de la PS4. Oui, parce qu'il y a quand même un petit déclin. Entre juillet et septembre 2019, le constructeur a distribué 2,8 millions de consoles contre 3,9 millions au même trimestre de l'année précédente. L'année précédente hein, qui était marquée par le pic de popularité de Fortnite et du lancement du jeu Spider-Man. J'ai toujours pas fait d'ailleurs, faut vraiment qu'un jour je m'y mette, bref. Alors que Sony a un prévu de distribuer 16 millions puis 15 millions de PS4 sur l'année fiscale, cet objectif est maintenant raboté à 13,5 millions, en rappelant que le constructeur avait écoulé 17,8 millions de machines un an plus tôt. Les services par contre se portent très bien, les abonnés PlayStation Plus atteint un nouveau sommet, un nouveau record avec 36,9 millions de membres au 30 septembre dernier, 34 millions de membres à peu près, un an plus tôt, et de son côté le PlayStation Now célèbre son premier million de membres. La baisse de prix et le renforcement du catalogue, moi j'en suis vraiment absolument ravi, le PlayStation Now, je trouve que l'offre est vraiment super. Bref, tout ça fait que Sony se porte bien, voilà, tout simplement. J'aimerais finir cette brochette de news en vous parlant d'une exposition qui s'appelle « Design-moi un jeu vidéo » qui est en préparation à la Cité du Design. Oui, j'ai lu ça sur francebleu.fr. Les jeux vidéo donc sont à l'honneur, nous dit France Bleu, à la Cité du Design de Saint-Étienne. Une expo intitulée « Design-moi un jeu vidéo » est en cours de préparation. Elle doit débuter le 26 novembre, donc ça va quand même arriver assez rapidement. L'objectif est de montrer en quoi le design a été une pièce maîtresse du développement des jeux vidéo. Design dans tous les sens du terme. Le design purement graphique, mais aussi le game design, bien évidemment. Tout ce qui se rapporte donc au terme design autour du jeu vidéo. Les visiteurs pourront tester 30 jeux vidéo pendant l'exposition. De quoi rappeler, nous dit-on, des souvenirs ou découvrir les derniers jeux à la mode. L'exposition se tiendra donc du 26 novembre. Elle durera jusqu'au 8 mars, donc ça vous laisse quand même un sacré créneau pour en profiter. Et donc tout ça, ce sera la Cité du Design à Saint-Étienne. Je ne pourrai pas m'y rendre, bien sûr. Vous savez, c'est un peu compliqué pour moi pour me déplacer. Mais si certains d'entre vous vont y faire un tour, j'aimerais bien des petites photos, un petit report, et pourquoi pas pour en reparler après dans la revue de presse JV. Mais oui, c'est la connexion, c'est comme des strandings, nous sommes tous connectés. Allez, on passe à la suite. Il est temps de débriefer le sondage de la semaine qui vient de s'écouler et qui avait pour sujet la Paris Games Week. Et oui, je vous demandais, d'ailleurs, à l'heure où je parle, elle est toujours pas terminée, c'est le dernier jour, mais je vous demandais si vous étiez intéressé pour aller arpenter les couloirs bruyants et un peu anxiogènes parfois de la Paris Games Week. Vous êtes 17% à m'avoir dit « j'y serai », 4% à me dire « je me tâte », 24% à me dire « je ne pourrai pas m'y rendre, hélas ». Vous êtes un peu déçu de ne pas pouvoir aller mettre un pied à la Paris Games Week. Et 55% sans moi, vraiment 55% à faire montre d'un rejet total à la Paris Games Week. Vous étiez 82 à voter, bon c'est pas mal, mais vous m'aviez habitué à mieux. J'espère que pour le prochain sondage qui concerne justement la BlizzCon, vous serez un petit peu plus nombreux. Sans moi, donc 55%, j'ai eu la chance, alors là je vous fais un peu 36-15 ma life, mais j'ai eu la chance à l'époque d'IGMAG d'aller à la soirée presse VIP de la toute première Paris Games Week, pardon. J'ai du mal, c'est dimanche, on est tous fatigués. Et je me souviens, déjà, rien que pour la soirée de lancement, de beaucoup de brouhaha, de gens qui se battaient pour avoir des goodies, qui étaient prêts à vous écraser la gueule, vraiment à vous marcher dessus pour récupérer un petit truc en plastique, machin. Et déjà, je m'étais dit, bon, c'était un peu ambiance paillettes, champagne, etc. Et l'esprit du jeu vidéo dans tout ça. Voilà, c'est un petit peu caricatural ce que je vous dis, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça à l'époque. Et celle où j'ai été ensuite, que ce soit à l'époque où je travaillais pour la presse ou en tant que simple visiteur, je me suis dit, il y a trop de bruit, ça tambourine trop et c'est fatigant. Je préfère regarder mes petits trailers chez moi, derrière mon PC. Alors ça fait un peu ours quand je vous dis ça. Je préfère savourer du JV d'une autre manière, voyez-vous. En tout cas, j'aimerais avoir votre opinion sur si vous y avez été, sur votre ressenti sur cette Paris Games Week. Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez été déçu? Bref, faites-moi part de votre ressenti par rapport à cette PGW, si vous y avez laissé quelques sous, quelques gouttes de sueur. At revue de presse JV, tout collé, le compte Twitter des champions, vous ne le savez que trop bien, n'hésitez pas à me faire part donc de votre opinion là-dessus. S'est donc déroulé il y a quelques jours la BlizzCon 2019, et oui, l'événement annuel où tous les fans de Blizzard communient, se font des bisous et chantent des chansons d'amour, puisque finalement, nous ne sommes qu'amour, quelque part. Bref, là, je n'ai pas bu, je vous assure, c'est bientôt l'heure de l'apéro, là, au moment où j'enregistre cette news, nous sommes dimanche, 11h30, mais plus sérieusement, la BlizzCon s'est ouverte sur des excuses à propos de l'affaire Blitzchung. Et oui, je vous en parle toutes les semaines. C'est ce joueur, ce champion d'Hearthstone qui avait exprimé son soutien aux manifestants de Hong Kong. C'est G. Allen Brack, le PDG de Blizzard, hein, tout simplement, qui a ouvert donc cette BlizzCon en exprimant des excuses. Des excuses qui ont été un petit peu raillées par certains, puisque jugées un petit peu lèges, un petit peu fauderches, faut dire ce qui est. Est-ce que c'est du damage control? On ne sait pas trop. On est un peu dans une ambiance, le mal a déjà été fait, hein, quelque part. Mais jeuxvideo.com, hein, qui a fait une très bonne couverture, hein, de ces BlizzCon, donc je m'appuie surtout sur eux là, pour cette section de l'émission, donc nous dit effectivement que G. Allen Brack, hein, est revenu sur l'affaire ayant agité la communauté Blizzard, hein, donc celle de la suspension de Blitz Chang, qui avait soutenu donc les manifestants de Hong Kong. Il avait été suspendu pendant un an, avait vu ses gains retirés. Quelques jours plus tard, hein, donc je vous refais un peu le topo, Blizzard annonçait que la sanction était maintenue, mais réduite à 6 mois pour non-respect du règlement, tandis que ses gains lui avaient été redonnés. Les conséquences de cette affaire, nous dit JV.com, se sont ressenties jusqu'à la BlizzCon où des joueurs ont manifesté donc hier matin. Et donc G. Allen Brack a débuté la conférence, hein, cette BlizzCon 2019, avec ces mots, je cite: Blizzard a eu l'occasion de rassembler le monde entier dans un moment difficile sur Hearthstone il y a environ un mois, et nous ne l'avons pas fait. Nous avons agi trop rapidement, puis trop lentement pour vous parler. Nous n'avons pas respecté les normes élevées que nous nous sommes fixées, et pour cela je suis désolé, et j'en accepte la responsabilité. Nous aspirons à rassembler le monde grâce à des divertissements épiques, et à croire au pouvoir positif des jeux vidéo. Lorsque nous y parvenons, nous créons un terrain d'entente où la communauté se réduit indépendamment des éléments qui nous divisent. Nous ferons mieux en allant de l'avant, et nos actions le prouveront. Tout le monde a le droit de s'exprimer partout. Voilà, discours qui a été accueilli un petit peu moyennement, hein, j'ai envie de vous dire. Je fais juste un petit détour chez GameCult, qui ajoute quelques informations donc sur les protestations qui avaient été promises par les joueurs. Des joueurs toujours très fâchés, hein, par rapport au comportement qu'a eu Blizzard envers ce joueur Blitz Chang. Donc des protestations qui n'ont pas eu lieu dans un amphithéâtre, nous dit GameCult, hein, mais en marge du parc des expositions entre banderoles et costumes de Winnie l'ourson. Vous savez, référence aux nombreuses vraiment moqueries dont fait l'objet Xi Jinping, hein, le président chinois. On en avait parlé déjà, hein, lors de la saison 2 de l'émission. Bref, ceci étant dit, chacun se fera son avis, effectivement. Moi, je pense que c'est trop tard, de toute façon, l'erreur a été faite, et quoi qu'il fasse maintenant, de toute façon, bon, Blizzard a merdé. Donc, il y avait quand même des raisons de s'enjoyer, hein, comme disent les jeunes, puisque Diablo 4 a été dévoilé, oui. JV.com nous dit, teasé l'année dernière, mais éclipsé par la maladroite annonce de Diablo Immortal, on va pas revenir là-dessus, Diablo 4 a, pour cette BlizzCon donc 2019, eu l'honneur d'être présenté en ouverture de conférence. Après une longue et marquante cinématique, nous dit-on, le titre s'est un peu plus dévoilé. Alors le jeu invoque directement Diablo 2, nous dit JV.com, hein. Le prochain volet de la licence laissera les joueurs vivre une aventure non linéaire au sein d'un sanctuaire ouvert composé de 5 régions. Et oui, rien que ça. JV.com qui, quelques jours plus tard, a fait un petit report, hein, d'une prise en main sur le jeu, et le site nous dit que s'il reste encore bien des choses à découvrir autour de ce Diablo 4, cette suite s'annonce déjà pleine de promesses. Son bras souhait, nous dit-on, le jeu porte en bandoulière son hommage aux deux premiers volets de la licence. Il se sert de ses solides fondations pour tenter d'apporter plusieurs nouveautés à la formule, donc un monde désormais ouvert, une progression non linéaire, une approche plus sociale de son expérience, etc., etc. Son développement est toujours en cours, et encore loin d'être terminé selon Blizzard. Certains éléments d'ailleurs sont appelés à évoluer au fil des prochains mois. Une sortie simultanée annoncée sur PC, PS4, Xbox One, Diablo 4 offre un premier aperçu diablement excitant, jeu de mots quand tu nous tiens, pour la suite des choses. Autre annonce qui a fait trembler les murs, hein, qui a ravi l'audience, c'est l'annonce d'Overwatch 2. Overwatch 2 qui ajoute aux habituels modes compétitifs de jeu un volet PvE composé de deux nouveaux modes spécifiques. Donc il se veut plus scénarisé que par le passé, il n'oublie pas sa dimension PvP non plus en proposant un nouveau mode de jeu compétitif ainsi qu'un mode capable de redéfinir, selon le studio, l'idée même d'une suite. Oui, alors il est prévu pour l'automne 2020. À nouveau une sortie simultanée pendant que le chien de mon voisin se met encore à aboyer. Et oui, c'est le marronnier, hein, vous le savez, chaque semaine. Où en étais-je? J'en perds mes mots. Oui, donc sortie automne 2020, prévue au minimum, hein, pour l'automne 2020 plutôt. Donc sortie simultanée sur PC, PS4, One et Nintendo Switch. Overwatch 2 adopte un modèle assez inédit, on nous dit. L'intégralité de ses contenus PVP déjà existants ou à venir seront toujours accessibles aux possesseurs d'Overwatch 1. Dans les faits, nous expliquons, Blizzard fusionnera les deux jeux pour n'en faire plus qu'un seul. personnages, skins, progressions, rangs, succès, tout sera transféré vers cette suite. Une personne qui ne possède pas donc le deuxième volet pourra continuer de jouer en PvP sur les mêmes modes que les joueurs de cette suite. La seule restriction, nous dit-on, concerne l'accès à la nouvelle dimension PvE du jeu introduite dans Overwatch 2, cette dernière étant articulée autour de deux modes, le mode story mission, hein, c'est la campagne scénarisée, et le mode héros mission, toujours en coopération et à 4 joueurs, donc ce mode PvE entend jouer la carte de la rejouabilité. Ici, le casting n'est pas prédéfini, les joueurs feront progresser leur héros sur 20 niveaux, ouvrant la voie à un tout nouveau système de points de talent spécifique à ce mode. Il y a aussi un nouveau mode PvP nommé Push, et il y a un nouveau héros Sojourn qui est introduit lors de l'événement Archive sur Overwatch 1. C'est le premier personnage d'Overwatch 2 présenté lors de ces BlizzCon. Amélioration du moteur graphique, interface retravaillée, bref. Je précise que pour ce report de ces BlizzCon, je ne vais pas trop dans les détails, puisque si vous êtes fan absolu de l'univers de Blizzard ou de l'une de ses licences, vous savez déjà tout ça par cœur, vous avez revu la larme à l'œil 20 fois les vidéos. Si vous n'êtes pas trop dans ce délire-là, je ne vais pas partir sur des heures d'explication, parce que ça va vous endormir au bout d'un moment, et je pense à votre sécurité. Si vous êtes en voiture, je ne veux pas risquer un accident. Si vous êtes en train, je ne veux pas risquer le fait que vous ratiez votre station. Non, je pense à vous, mes petits cocos. BlizzCon 2019, c'est aussi l'occasion pour World of Warcraft de repointer le bout de sa truffe avec Shadowlands, la nouvelle extension qui est disponible d'ores et déjà en précommande. Il y a aussi l'envol des dragons, troisième et dernière extension d'Hearthstone de l'année du dragon. Attention, ça sortira le 10 décembre. La version reforgée de Warcraft 3 était là aussi pour nous dire qu'elle est passée en version bêta depuis mardi soir dernier. Et nouvelle info, toutes les personnes ayant assisté à la BlizzCon de manière physique ou virtuelle avec le ticket reçoivent donc un joli accès bêta. Il y a eu pas mal de petites joyeusetés, ça a reparlé aussi d'autres licences, il y a eu du StarCraft 2, etc. Bref, tout ça, vous le savez si vous êtes fan de Blizzard. Donc, globalement, moi, je ne suis pas forcément le premier client des prods Blizzard, mais j'attache beaucoup d'importance au rayonnement qu'a Blizzard envers sa communauté. Et en fouinant un petit peu sur les réseaux, etc., à part le discours de J. Allen Brack qui a moyennement convaincu, pour le reste, les annonces vous ont fait frétiller vraiment comme des petites truites, comme je dis souvent, mais visiblement vous avez été très heureux, beaucoup d'émotions, surtout par rapport à Diablo 4 et à Overwatch 2. Donc je peux, sans trop me mouiller, annoncer que cette BlizzCon 2019 était quand même beaucoup plus réussie que la précédente et que visiblement elle vous a ravi. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties? Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade nommé Patreon. Oui, après vraiment concertation pendant des mois et des mois, comme je vous disais en introduction d'émission, la décision a été prise à peu près l'été dernier. Mais c'est beaucoup de discussions sur le Discord avec les tipeurs. J'avais peur que ça fasse un peu too much. Je vous dis vraiment sincèrement, j'ai toujours été très sincère avec vous. Transparence totale. J'avais peur que ce soit mal pris d'ouvrir un Patreon en plus. J'avais peur qu'on me dise, bah voilà, tu t'emmerdes pas. Il faut savoir que si je travaille à côté, vous le savez, je suis dans une petite structure et je ne m'en plains pas du tout. C'est un bonheur, c'est un rêve absolu d'être dans la création de jeux vidéo. Mais pour l'instant, effectivement, le salaire n'est pas très haut. Et c'est vrai que le Tipeee m'aide beaucoup pour arrondir mes fins de mois, et c'est surtout un symbole vraiment pour moi très important de soutien envers l'émission. Et donc j'ai ouvert un Patreon, voilà. Donc c'est patreon.com/la-revue-de-presse-jv, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee, tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. Vous le savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. ou si, maintenant, désormais. Vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez. Et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV qui est en cours de montage, hein, la première de la saison 3. La grande revue de presse JV où, de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet, vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, il y a aussi le Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement. Et je fais mille bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur sur Patreon de me soutenir, car vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos finalement, car je fais l'émission, vous le savez, le week-end et certains soirs de semaine en plus de mon boulot. Et au-delà du type, de l'aspect financier, c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup. Bref, il est temps de passer donc au coup de gueule et au coup de cœur donc des contributeurs. Maintenant, je veux dire, parce qu'il n'y a plus que des tipeurs, il y a les tipeurs, mais il y a aussi ceux sur Patreon. Donc, je pense qu'on peut vous rassembler sous ce mot merveilleux de contributeur. Alors, Mopral nous dit « Petit coup de cœur de mon côté, car grâce à Quickload, hein, donc le podcast Quickload, j'ai appris que la bêta de Steam était devenue publique. J'ai pu la tester. Grosse amélioration de la bibliothèque de jeux, avec surtout la possibilité de faire des catégories dynamiques où les jeux se rendent automatiquement selon certains critères, et la possibilité d'utiliser enfin les mots-clés qu'il y a dans la boutique. Il manque encore quelques trucs que j'aurais bien aimé trouver, mais ça fait du bien un peu de renouveau. » Alors, j'ai pas eu le temps d'aller sur cette bêta Steam, hein, qui est devenue publique. Il va falloir que jette un petit peu un œil. Tulkas nous dit, et bah justement, gros coup de cœur pour la nouvelle interface de la bibliothèque Steam. Hein. Vraiment, Steam est encensé cette semaine. C'est pas souvent, donc faut en profiter. Tulkas nous dit, je suis dessus depuis le début de la bêta et elle est vraiment très cool. J'ai pu en une demi-heure classer tous mes jeux Steam et il y en avait des tonnes. Alors que sur l'ancienne version, c'était galère. C'était une grosse galère sans nom et visuellement, elle est beaucoup plus lisible et stylée. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, contrairement à certains, nous dit Tulkas, je déclare tout mon amour et mon respect pour Steam, qui mine de rien offre un bon service depuis des années, qui a permis l'émergence de beaucoup de petits studios, aux jeux PC en général de se développer, et aux jeux japonais de trouver leur place sur mon PC. Mille merci à vous. C'est vrai qu'on est souvent très critique avec Steam, et entendre cela, c'est vrai que ça change un peu. Donc merci Tulkas, merci Mopral pour vos coups de cœur, et donc bah, aux autres tipeurs et aux futurs Patreons, et bah, n'hésitez pas, coup de gueule, coup de cœur, et je lis ça dans l'émission comme d'habitude. S'il est un jeu que j'attends depuis de nombreuses années, c'est bien Death Stranding. Hein, je vous en ai déjà parlé, je suis très fan d'Hideo Kojima. Et au-delà des débats qu'on peut avoir autour de sa communication, c'était un jeu très attendu, Death Stranding. Alors je vais pas vous refaire l'affront de vous représenter ce que c'était. De toute façon, peu de gens savent encore ce que c'est exactement. Il ne faut pas trop regarder le dernier trailer qui en dit beaucoup. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je le répète, hein, je martèle tout le temps que quand on attend un titre, hein, quand vous êtes sûr de l'acheter, que vous l'avez préco, etc., coupez les robinets de l'information, arrêtez de regarder les trailers, les let's play, les découvertes, etc. Gardez-vous ce plaisir indispensable de la découverte, ça vous transcende, ça vous change une expérience, si le jeu vous plaît, hein, à plus forte raison. Et donc, l'idée ce matin, c'est effectivement de parler de l'accueil critique de Death Stranding sans vous en dire quoi que ce soit. Sur le gameplay, etc. Parce qu'il y a comme un mystère qui est nimbé autour du jeu. On le sait que le personnage de Sam, campé par Norman Reedus, fait des livraisons, etc., que le monde est ouvert. Pas mal de choses un petit peu particulières, mêlant SF, philosophie, etc. Je n'en dirai point plus, parce que déjà je n'en sais pas plus. Je me garde le plaisir de la découverte au moment où j'enregistre cette émission. Nous sommes le dimanche 3 novembre, donc je n'ai pas encore reçu le jeu. Mais le jeu était très attendu. Quel a été l'accueil pour cet exclu temporaire PlayStation 4, hein, puisqu'on en a parlé dans le point news, hein, le jeu sort sur PC également, ce qui n'était pas une grosse surprise. Bref, on en a parlé tout à l'heure. Quel était donc l'accueil de Death Stranding ? Globalement, c'est quand même assez élogieux. Il y a des voix dissonantes. Alors c'est assez marrant, les petites guéguerres sur les réseaux sociaux, etc., de ceux qui ont déjà décidé d'assassiner le jeu avant. ceux qui vont l'encenser quoi qu'il arrive, etc. Bon, je me détourne de ce genre de guéguerre futile, mais il faut reconnaître que globalement, les notes sont très bonnes. Le père Fidalbion sur Gamecult a mis 9 sur 10. Hein. À Death Stranding, il nous dit « Death Stranding est un jeu rare, une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. Parce qu'il a le courage d'avoir une vision et de la respecter jusqu'au bout. Parce qu'il est encore trop exceptionnel de voir les moyens du triple A au service d'une identité si particulière. Le dernier né de Kojima Productions ne fait aucun compromis, ni sur son univers, ni sur sa proposition, ni sur son message. Et ce faisant, il prend le risque de laisser certains joueurs sur le carreau. Mais c'est justement cette approche absolue qui en fait un objet vidéoludique unique et brillant. Nouvelle leçon de mise en scène et d'écriture de la part du créateur de Metal Gear, Death Stranding est un voyage marquant à plus d'un titre, une machine à souvenir. » Là, dans cette critique du père Fidalbion, on comprend que le jeu va énormément diviser, vous allez voir, ça va vraiment revenir à chaque fois. Martial Duchemin sur Gamergen lui met 19 sur 20 à Death Stranding. Il dit que ce jeu est un ascenseur émotionnel qui s'amuse avec notre petit cœur du début jusqu'à la fin. Il y a certaines phases, nous dit-il, où de l'ennui se fait ressentir, où l'émission manque de piquant. Une envie de tout stopper ? Non, car il y a cette frénésie qui nous pousse à continuer comme si le joueur était directement lié, connecté à Sam Porter Bridge. En plus d'être spectateur de cette tragédie, nous en sommes un acteur qui a un rôle important à jouer. La direction artistique, l'histoire, les personnages et l'univers décalé voilent les imperfections pour laisser place à une œuvre vidéoludique captivante. Une fois achevé, nous avons ce besoin d'y retourner pour découvrir les petits secrets éparpillés à droite, à gauche. Le Death Stranding s'empare de nous, notre corps vibre, le cerveau reste connecté. Nous avons là un incontournable à ne pas louper sans l'ombre d'un doute. Tristan Ogilvie sur IGN.fr et lui, alors beaucoup plus mesuré, hein, pour ne pas dire plus. Comme je disais, il y a quand même des voix dissonantes, et donc IGN.fr en fait partie, il met au jeu 6,8. Il nous dit « Certains des jeux les plus marquants sortis ces dernières années, comme The Legend of Zelda, Breath of the Wild ou Red Dead Redemption 2, ont réussi à trouver un bon compromis entre réalisme et invitation à l'évasion. Mais à l'instar de son protagoniste trébuchant, Death Stranding n'arrive tout simplement pas à trouver le juste équilibre, malgré des ambitions tout aussi élevées et les innombrables concepts inventés qu'il introduit. » L'univers d'inspiration SF surnaturel que vous découvrez en arpentant sa carte tentaculaire et spectaculaire s'avérant fascinant et étoffé, il est vraiment regrettable que l'ensemble du titre s'appuie sur un gameplay ayant toutes les peines du monde à soutenir son poids durant la totalité de l'aventure. Le fait que la dernière création de Kojima Productions s'attache autant à une fonctionnalité incontournable des réseaux sociaux permet un parallèle approprié parce que j'ai d'une certaine façon aimé Death Stranding sans pour autant l'adorer. Sur Gameblog, Thomas Pillon lui met 8 sur 10, hein, il nous dit « Avant d'être le premier jeu de Kojima Productions, une œuvre baroque au possible ou même un objet de débat éternel sur les personnes de son créateur, Death Stranding est d'abord un jeu bourré d'idées, souvent judicieuses. En nous plaçant dans les bottes usées d'un porteur solitaire chargé de relier entre les survivants d'un monde en perdition, Hideo Kojima nous invite à explorer un monde dense, riche de découvertes et de situations sans cesse renouvelées qui dévoilent toute sa portée, passé une première partie très sage. » En obligeant naturellement les joueurs à collaborer intelligemment sans pour autant jamais se rencontrer au cours de la partie, Death Stranding invente ses propres règles et innove grâce à un level design solide et une technique irréprochable. JV.com, par la plume de Panta, lui met 19 sur 20. Il nous dit « Death Stranding est une invitation au voyage dont on ressort marqué par une expérience aussi maligne qu'atypique. L'univers du jeu que l'on prend plaisir à découvrir en solitaire et plus tard avec d'autres joueurs offre un terrain escarpé au panorama saisissant. On l'affronte, on le parcourt, on le dompte en progressant à notre rythme, planifiant des routes que d'autres emprunteront. Pour cette audace et ce concept, Death Stranding prouve que tout n'a pas encore été fait. Et si, en plus, le récit est passionnant et incroyablement bien incarné par des acteurs à la prestance remarquable, pourquoi s'en priver ? Un chef-d'œuvre, tout simplement. » Du côté de la presse étrangère, c'est des notes maximum quasiment à chaque fois. Vraiment, allez faire un tour du côté de Metacritic, vous allez voir, c'est assez saisissant. Gamersky, hein, lui, met la note maximum et nous dit « Death Stranding est un jeu sur la connexion et il relie non seulement tous les personnages du jeu, mais aussi tous les joueurs ensemble. C'est un chef-d'œuvre avec de grandes pensées philosophiques et qui combine une excellente narration avec un gameplay innovant. » EGM, mais également la note maximum. Il nous dit en fin de compte, le plus grand mystère de Death Stranding n'est en aucun cas des éléments qu'on nous a teasés au fil des années, non, c'est l'un des jeux les plus conflictuels jamais créés. Pour moi, nous dit le journaliste d'EGM, ce fut une expérience dont je peux vraiment dire qu'elle ne ressemble à aucune autre. Je respecte Hideo Kojima d'avoir convaincu Sony d'investir des millions dans un jeu où un homme livre sans cesse des paquets. Ça, ça revient souvent, c'est la vision du jeu d'auteur. Un jeu avec un budget aussi pharaonique qui se permet de rester droit dans ses bottes, de rester dans la vision qui a été décidée donc par le capitaine du bateau, à savoir Hideo Kojima. Et c'est marrant parce que c'est des débats qui revenaient aussi à l'époque sur Red Dead 2, pour son côté très tranché de certaines choses. IGN Italia nous dit une expérience unique en son genre qui vous suivra pendant des années et des années. Obi Consolas, 93 sur 100, nous dit Death Stranding est le jeu le plus personnel de Kojima, une œuvre d'art complexe et émotionnelle qui ne conviendra pas à tout le monde en raison de sa lenteur et de son gameplay inhabituel. Mais une fois que vous rentrez dedans, c'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Le Washington Post nous dit Death Stranding est le jeu AAA le plus étrange auquel nous avons joué cette année, et nous le disons comme un compliment. Imaginez la série Lost croisée avec l'approche de Minecraft et vous aurez une idée du titre particulier de Kojima Productions. Ce croisement Lost-Minecraft, là, cette comparaison qu'ils nous font, c'est rigolo. The Guardian nous dit avec un gameplay techniquement brillant qui nie toute satisfaction instantanée. Intéressant. Le jeu sans compromis de Kojima est de loin le blockbuster le plus intéressant de cette année. Game Informer lui met 7 sur 10, alors un peu plus critique, nous dit le vrai problème est que le gameplay du jeu est aussi simple qu'il paraît et les éléments qui l'entourent, l'histoire, le combat, les objectifs peu reluisants de la mission, ne sont pas assez satisfaisants pour ancrer le titre et faire investir le joueur. Games Radar nous dit le titre de Kojima sait se montrer épique par moment, mais il ne peut pas répondre aux énormes attentes que nous avions. Le jeu vraiment divise clairement et c'est ça qui est intéressant. Moi, je vous le dis, j'attends le jeu, ce que j'ai déjà fait, je couperai tous les débats qu'il peut y avoir sur Twitter ou ailleurs, etc. Je n'ai pas lu, à part ses conclusions, là, pour l'émission, je n'ai pas lu l'intégralité des articles, hein, des tests. Les youtubeurs n'en parlent même pas, je ne vais même pas y mettre un clic. Je veux absolument découvrir le jeu par moi-même, sans influence extérieure, et je vous en reparlerai à ce moment-là quand j'aurai fait le tour du jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez prévu de plonger dans Death Stranding. Voilà en tout cas pour ce qui est de l'accueil critique. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs, eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek, hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Allier science aux jeux vidéo. C'est un dossier passionnant que j'ai trouvé sur le journal du CNRS, un papier qui nous parle de Raphaël Granier de Cassagnac, qui est un physicien des particules, auteur à succès, mais aussi, nous dit-on, un joueur invétéré. Le papier nous dit qu'il vient de créer au sein de Polytechnique la chaire Science et Jeux vidéo en partenariat avec Ubisoft afin de diffuser la science à travers ce média ultra populaire. Petit rappel, et là je vous le dis tout de go, je m'aide de Wikipédia. Qu'est-ce qu'une chaire universitaire, hein, ou qu'on peut appeler aussi chaire professorale ? C'est un poste permanent d'enseignement et de recherche universitaire attribué à un enseignant qui obtient alors le titre de professeur. Important de rappeler cela pour la suite de ce sujet. Raphaël Granier nous dit, je cite, « J'avais 10 ans quand mes parents m'ont offert mon premier ZX81, un ordinateur avec 1 kilo-octet de mémoire vive. J'y recopiais religieusement des codes de jeux vidéo que je trouvais dans des magazines spécialisés. J'étais déjà accro. » Alors on nous rappelle aussi que Raphaël Granier de Cassagnac est directeur de recherche CNRS au laboratoire Le Prince Ringuet de l'école Polytechnique. Et donc c'est surtout pour ses romans, nous dit-on, et ses nouvelles de science-fiction, plusieurs fois primées, que le grand public le connaît. Mais en plus d'être un auteur à succès et un physicien des particules reconnu, il est donc un gamer invétéré. Alors on nous dit qu'il a des allures d'étudiant avec sa chemise à carreaux, ses nombreuses bagues aux doigts, il déambule dans le centre de recherche abritant les laboratoires de l'école polytechnique, passant sa tête dans les bureaux, distribuant de chaleureux saluts à ceux qu'il croise, il est ici, chez lui. Derrière l'une des portes qu'il ouvre, ses quatre collègues sont agglutinés devant un écran. Ils testent un nouveau jeu de leur confection. Le jeu vidéo, nous dit Raphaël Granier, représente l'industrie du divertissement la plus importante devant celle du cinéma et de la musique. C'est donc un formidable média pour diffuser de la science. Cette chaire de mécénat, signée avec Ubisoft, a justement pour ambition d'incorporer davantage de science dans les jeux. Et donc pour ce faire, nous dit le journal du CNRS, 4 professionnels du jeu vidéo, un développeur, un game designer, un graphiste et une chef de projet ont été embauchés. Et leur programme est chargé. Nous commençons par organiser une conférence sur la science dans le jeu vidéo avec Ubisoft au sein de Polytechnique le 26 novembre, avec l'objectif de rendre cet événement pérenne et international. Côté enseignement, nous dispenserons des cours à des étudiants de deuxième année qui auront pour mission de créer un jeu scientifique. Nous détaille donc le chercheur. Par la suite, dit-il, les étudiants de 3e et 4e année en profiteront et nous avons même le souhait de créer un master spécialisé. Via ces cours, donc, nous dit l'article, l'idée est de mener des projets collaboratifs innovants et transdisciplinaires. Raphaël Granier ajoute, nous avons par exemple commencé à travailler avec le département de linguistique pour générer, au sein d'un jeu, des dialogues qui s'adaptent à un environnement changeant comme la météo. Pour tous ces projets, nous tenons absolument à ce que la science soit très présente. Alors s'ensuit dans le papier, je vous mettrai comme d'habitude le lien de l'article dans la description de l'émission, mais on revient donc sur la carrière de Raphaël Granier de Cassagnac, et donc un peu plus loin dans l'article, on apprend qu'avec toutes ses casquettes, avec son emploi du temps fort bien rempli, il continue évidemment de jouer aussi bien à des jeux vidéo qu'à des jeux de société ou des jeux de rôle même, et crée aussi ses propres mondes imaginaires, nous dit l'article. Ceux-là sont très fortement inspirés de la science qu'il connaît donc si bien. Il développe en effet un jeu dont le nom de travail est Reveal, qui raconte la physique des particules via des paysages fantasmagoriques dans lesquels le joueur peut voir tous nos objets de science invisibles mais tellement fascinants, rayons cosmiques et autres particules élémentaires. Le chercheur nous dit « J'ai commencé à travailler sur ce concept en répondant à un appel à projet ». Le Proof of Concept, lancé lui aussi par le Conseil européen de la recherche et qui valorise notamment les initiatives de vulgarisation et de valorisation des résultats scientifiques. Il se trouve que je n'ai pas obtenu le financement, mais l'idée était lancée et je n'ai plus jamais lâché. Alors pour financer le projet, nous dit-on, il prend son bâton de pèlerin et frappe à plusieurs portes. À ce moment-là, on est encore en 2017. Les premiers soutiens obtenus sont ceux du LabEx P2IO, le laboratoire d'excellence pour la physique des deux infinis et des origines, puis de l'université Paris-Saclay et du LLR de Polytechnique. Donc tous répondent à son appel. Ainsi sponsorisé, il avance dans le développement de son jeu, mais n'a pas oublié d'écrire. En 2014, il sort son deuxième roman, Sinking Eternity, qui a reçu d'ailleurs le prix du lundi, un des grands prix pour la science-fiction française. Il n'est toujours pas question de physique ni de cosmologie, mais de transhumanisme et d'intelligence artificielle. Entre 2014 et 2017, il a écrit 5 autres nouvelles. Alors il nous dit... Quand je suis arrivé au bout de ces premiers euros, bienvenue mais limité, il me fallait trouver d'autres sources de financement pour mon jeu. Alors le physicien nous dit, je cite à nouveau, « J'ai alors eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, des gens comme Olivier Doba d'Ubisoft et David Louapre, fondateur de la chaîne YouTube Science Étonnante, qui venait d'être embauché en 2018 comme directeur scientifique d'Ubisoft. Ils ont tout de suite accroché à mon idée, j'ai senti un appétit très fort pour la science. » Donc tout ceci a encouragé le chercheur à soumettre le projet le plus ambitieux qui lui trottait alors dans la tête, créer une chaîne de jeux vidéo au laboratoire Le Prince Ringuet au sein de Polytechnique. Alors la nouvelle a été accueillie très chaleureusement, nous dit-on, et tout s'est fait très vite. Il a donc signé officiellement les accords pour la création de la chaire début 2019. Il s'agit d'une chaire de mécénat, ce qui signifie qu'Ubisoft donne pour la cause académique, mêlant la science aux jeux vidéo. Nous sommes très libres, nous dit-il, notamment de travailler sur toutes les sciences avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du jeu. Avant de signer la chaire, Raphaël Granier de Cassagnac s'était d'ailleurs déjà tourné vers Manzalab, une entreprise experte en réalité virtuelle pour développer une expérience immersive dédiée aux lycéens, leur faire visiter en réalité virtuelle des instruments de pointe. Raphaël Granier de Cassagnac parachève ce papier avec ces mots, je cite « Avec cette chaire, j'ai réuni toutes mes passions. Faire de la patience, jouer, raconter des histoires. C'est vrai qu'on me connaît surtout pour la recherche et mes romans de SF, mais cette année, aux Utopiales, je vais faire mon coming out vidéo. Et quelle que soit la nature de mes activités, je reste fidèle à ma cause, Science for All, Fun Above All. Ce qui veut dire, la science pour tous, le plaisir avant tout. Voilà une belle initiative, l'idée, la philosophie de ce projet m'a tapé dans l'œil, et voilà pourquoi, comme d'habitude, je voulais vous en parler ce matin. Il est temps de se quitter, mes amis. Encore merci pour votre fidélité, merci pour vos partages sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, c'est très très important pour faire connaître l'émission au plus grand nombre. Et merci donc aux tipeurs, aux contributeurs, aux futurs Patreons aussi. J'aimerais remercier ce matin Malo Delic, le nouveau venu dans la grande famille des contributeurs de l'émission. Bienvenue à toi Malo Delic, merci beaucoup pour ton soutien et pour tes mots. Donc merci encore mille fois à toi. Merci à Crocodine, merci à Pipoletsu, à Seb22, à Mopral, à Trifon, à Valentin, à Siwididju, à Electrotactics, Tophobie, Fabien, Clem, Deben, Yvan Le Pierrot, Machintruc76, Garan, Laure, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Cédric, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas Vanifraise, X, Nihili, Carnoct, Melcoc, Luteria, Nazas, Loaconet, Evolix, Forza Pedro, JP Mader et l'incontournable Monsieur A. Merci à toutes et tous, je vous donne donc rendez-vous lundi prochain, même heure, même flux, et en attendant, je vous souhaite panache et robustesse pour la semaine. Gros béco et à tantôt. Bye bye.